Bonjour, excusez le retard. Bienvenue à cette table ronde sur la singularité est-elle obsolète ? Je crois, pour résumer le titre, la singularité technologique, une inquiétude obsolète. Rapidement, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit singularité ? On dit 1 sur x tend vers l'infini. Quand on dit singularité technologique, on pense à la loi de Moore, ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire le fait que la puissance des microprocesseurs, pour le même coût, double tous les 2 ans ou un truc comme ça, peut-être tous les 3 ans maintenant, je ne sais pas. Et que ça a mené des gens à postuler que ça allait augmenter tellement vite qu'un jour allait apparaître une intelligence artificielle qui allait prendre la place de l'humanité pour ce qui est de toute innovation. En fait, plus précisément, c'est Werner Vinge, qui est un auteur de science-fiction assez connu quand même, qui a écrit un article en 1993, donc ça date pas d'hier, qui expliquait toute cette histoire, qui a eu beaucoup de succès, et donc le concept a été repris par beaucoup de gens. Werner Vinge s'était même aventuré à prédire qu'une intelligence artificielle autonome et dépassant l'humain apparaîtrait entre 2005 et 2030, et qu'à partir de là, toutes les inventions qui seraient faites, ça serait fait par l'intelligence artificielle et non pas par l'humanité. Bon, je crois qu'il est un peu revenu là-dessus avec le temps. Il faut dire aussi que Werner Vinge est un informaticien qui avait commencé comme mathématicien, mais qui a fait sa carrière comme professeur d'informatique et, bien sûr, qui a écrit beaucoup de science-fiction. Et quand on lit son article, les références sont plus fréquentes à la science-fiction. Un de ses modèles, par exemple, c'est La musique du sang de Greg Bear, qui n'est pas du tout fondée sur l'informatique, mais sur la biologie. Et le langage qu'il utilise dans son article aussi est assez bourré de termes qui, clairement, sont de nature religieuse, évoquent, disons, la transcendance, de façon générale. Donc, il faut peut-être un peu détechnologiser cette idée de départ. Il faut aussi se rendre compte que ça se référait à de la SF précédente. Par exemple, une idée qui vient avec la singularité, c'est celle du grey goo. Alors, je ne sais pas comment on dit ça, la pâte grise, peut-être en français. L'idée qu'on a une nuée de nanomachines tellement petites que ça paraît une pâte. Et puis, qu'est-ce qu'elles font les nanomachines ? Ce qui les intéresse, c'est d'utiliser tous les éléments de l'univers physique et surtout les métaux qui leur tombent sous les petites pattes pour se reproduire infiniment et indéfiniment et tout recouvrir et tout transformer en computronium ou je ne sais quoi. Mais quand on regarde la SF des années 50, il y avait déjà une histoire sans informatique du tout de Robert Sheckley, la clé laxienne, qui est tout à fait sur le même schéma. Donc voilà, il faut faire un peu la part des choses, mais on va parler de ce genre de choses, on va parler des questions qu'il y a autour, on va parler aussi du fait que peut-être, ça y est, cette inquiétude, on est en train de la dépasser, qu'on a des nouvelles manières de le regarder, et on va parler, c'est surtout nos 3 remarquables participants qui vont parler, donc... comment je prends de droite à gauche pour vous, de gauche à droite pour moi. Sylvie Lainé, qui est bien sûr l'auteur de science-fiction que vous connaissez tous. Et si vous ne connaissez pas, vous avez tort et vous devez acheter au moins un de ses recueils de nouvelles. Par exemple, le dernier paru, dans lequel il y a un texte, Opéra de Chaillat, qui a eu plein de prix. Et alors, bonne chance pour vous. À 14h, juste après la table ronde, elle sera dans la librairie en train de signer ses œuvres. Donc, si vous n'en possédez pas, vous les achetez. C'est une librairie, ça tombe bien. Bon, hop, le tunnel publicitaire étant fini, on passe à Roland Lehoucq, qu'on ne présente plus, qui est le président du festival, qui est un astrophysicien, un vulgarisateur scientifique de première catégorie, quelqu'un qui connaît et qui aime la science-fiction et qu'on ne se lasse jamais d'écouter. Et enfin, Laurent Genefort, qui est un excellent auteur de SF avec une œuvre impressionnante. Je ne saurais pas tout dire parce que je n'ai pas tout lu et puis que je ne me souviens même pas de ce que j'ai lu. Mais par exemple, la sphère creuse au mâle géante, c'est lui. Et tout un tas d'autres œuvres parues chez divers éditeurs. Bien. Alors, peut-être que j'ai parlé très peu de technologie. Est-ce que, Roland, tu peux nous mettre un peu à jour sur l'état de l'art en matière de puissance de calcul et d'intelligence artificielle rapidement, parce que c'est un sujet inépuisable, mais...
Alors, c'est un sujet d'une part qui est inépuisable parce qu'il avance très vite. D'autre part, j'en suis quand même pas spécialiste, donc je fais ça comme quelqu'un qui suit un peu les affaires et qui le suit du côté du scientifique qui, pas moi directement, mais enfin assez indirectement, mais quand même probablement plus que vous, utilise des gros calculateurs et éventuellement des grosses sources de mémoire. Notamment pour des simulations numériques qu'on utilise en physique en général, mais singulièrement en astrophysique. Alors, pour vous donner une idée, déjà, dans les unités, c'est toujours intéressant d'avoir des idées dans les unités, parce que ça permet des unités de stockage de mémoire, par exemple, de puissance de calcul, de nombre d'opérations qu'on fait par unité de temps. Ça va permettre de quantifier un peu cette loi de Moore dont tu parles, le fait que la puissance, alors avec un terme qu'on pourrait définir, qui n'est pas tout à fait la puissance que les physiciens, des physiciens, des puissances des moyens de calcul augmentent. Le centre du CERN, vous connaissez le CERN, il y a le LHC, le Large Hadron Collider, qui fait des collisions de particules à très très haute énergie et qui, observant les débris, en déduit des tas de trucs intéressants, dont par exemple l'existence, effectivement, la confirmation de l'existence du boson de Higgs. La zone de stockage du CERN, elle dépasse la vingtaine de pétaoctets. Alors, un pétaoctet, c'est 10 puissance 15 octets. Vous êtes habitué aux gigaoctets maintenant. Moi, quand j'étais petit, j'ai joué avec un TRS-80 qui avait 8 kilooctets de mémoire extensible à 16. 8 kilos extensible à 16, c'était oh yes, on peut faire 16, les mecs. Bon, ça, c'était parce que je suis un peu ancien. Et puis, elle est très ancienne, alors ça n'existait même pas. C'est des cartes perforées, des cartes en carton perforées. Donc, le pétaoctet, c'est 10 puissance 15 octets. Ça veut dire, vous êtes habitué maintenant aux gigaoctets. C'est trivialement, on en achète des gigaoctets, même des téraoctets. Hein. Les disques durs, maintenant, standard externe, c'est 1 téraoctet. 1 téra, c'est 10 puissance 12, 1000 milliards d'octets. Et donc, le pétaoctet, c'est 1000 téraoctets. Et donc, le CERN, ils ont 20 fois ça, 20 fois 1000 téraoctets, et accessible assez rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à faire circuler et à stocker. Et ça, c'est 20 pétaoctets de stockage, juste pour discuter quand on fait l'expérience. Puis après, il y a le stockage de masse, le truc vraiment, on veut les garder longtemps. Alors là, c'est encore bien plus que ça. Et pour vous donner une idée, un pétaoctet, en gros, c'est la limite à partir de laquelle vous pourriez, avec une caméra vidéo standard, comme cette petite caméra qui nous filme ici, donc avec une caméra qui a déjà une bonne qualité numérique, des belles images, vous pourriez filmer votre vie intégralement de votre naissance, du moment exact où vous apparaissez au monde humain normal, et au moment exact où vous êtes mis dans votre tombe, typiquement entre 80 et 100 ans, mettons 100 ans pour faire rond et pour vous être favorable. Ça fait un pétaoctet, en gros. Le film intégral de votre vie, c'est un pétaoctet. D'accord. Donc, quand on commence à avoir des pétaoctets, c'est-à-dire qu'on peut commencer à stocker l'équivalent. Alors, c'est d'autres choses que ces genres de choses-là, que ces idées-là qu'on met dans le CERN. Mais voilà, on peut stocker une vie humaine entière chaque seconde. Hein, je dis bien chaque seconde, tout quand vous dormez, tout quoi que vous fassiez, c'est filmé. C'est un pétaoctet. Et ça, c'est le CERN. Et le CERN, ils sont forts. Et le CERN, le web, hein, c'est le World Wide Web, ça vient du CERN, hein, donc c'est une invention qui vient de la science. Mais évidemment, les data centers de Google, les data centers de Amazon, les data centers énormes, de la NSA, etc., c'est des centaines de pétaoctets, d'accord ? Donc on peut déjà commencer à stocker dans des mémoires qui prennent pas mal de place, mais toujours à peu près le même volume, mais il y en a de plus en plus dedans. C'est ça où ça change, c'est que quand on voit le premier stockage de masse, c'est une grosse armoire qui contenait 1 mégaoctet. C'était le truc absolument délirant dans les années peut-être 55 ou 60. Et c'était une armoire. Mais maintenant, dans la même armoire, on met facilement un pétaoctet dans une armoire à peine plus grande. Donc ça, c'est pour les stockages de masse. Et pour les puissances de calcul, on est en train d'arriver dans les calculs scientifiques, à ce qu'on appelle les calculs de taille hexaflopique, en jargon. Hexa, c'est 10 puissance 18. Le flop, c'est le floating operation per second. Ça veut dire une opération sur un nombre réel, une opération sur un vrai nombre avec plein de virgules, plein de nombres, plein de virgules par seconde. Et on en fait 10 puissance 18 par seconde. Voilà, ça, c'est les générations d'ordinateurs qui arrivent. 10 puissance 18 par seconde. On estime que le cerveau humain, on ne fait pas de calcul. Nous, on voit les choses, on agit, tout se passe bien. On n'a pas le temps de faire de calcul. Mais la puissance de calcul équivalente à un cerveau humain, c'est de l'ordre de 10 puissance 20 octet flop par seconde, 10 puissance 20 flop, 10 puissance 20 opérations par seconde. C'est pas ça qu'on fait en pratique, on sait pas trop d'ailleurs ce qu'on fait, mais pour voir nos images, pour reconnaître tout ça, voilà, on estime à peu près 10 puissance 20. C'est-à-dire qu'il reste qu'un facteur 100. Alors si on double tous les, mettons, 18 mois, pour faire 100, il faut 2 puissance 5, c'est 32, donc il faut 2 puissance combien ? 2 puissance 7, voilà, c'est ça, tu calcules beaucoup plus que moi, 2 puissance 7. Donc il faut 7 fois un temps de doublement, 18 mois. 7 fois 18 mois, genre, allez, on vous le fait à la louche, une grosse dizaine d'années, et puis c'est marre. Voilà d'où vient le... Voilà, on va arriver à quelque chose qui aura l'équivalent du puissance de calcul du cerveau. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi faire ? C'est-à-dire, pourquoi le Deep Blue a réussi à battre Kasparov aux échecs ? C'est pas parce que Deep Blue était un super champion d'échecs, c'est que parce que Deep Blue fait des zillions d'opérations par seconde, et qu'il a brutalement examiné des zillions de possibilités, en ayant un algorithme qui permet de donner une note à chaque possibilité, il prend la possibilité le coup qui donne la meilleure note finale, il prend ce coup-là, il dit, ben voilà, à Kasparov, je joue ça. Kasparov, lui, il calcule pas des zillions d'opérations par seconde, mais il sait, évidemment, il joue aux échecs plutôt bien. Lui, il regarde la zone, il réfléchit un peu, dit boum, allez, je fais ça. Donc lui, ça lui prend un temps beaucoup plus court. C'est pas une opération de calcul qu'il a faite, mais néanmoins, son cerveau a été utilisé. Il se fait battre par la machine qui a une brute force, aucune intelligence, zéro, juste un algorithme qui note les positions et qui teste les positions, des zillions de positions par seconde. Plus des bibliothèques d'ouverture pour aller très vite et des bibliothèques de clôture, enfin des bibliothèques de fin de partie pour aller vite aussi. Donc c'est pas parce qu'on est très puissant qu'on est très intelligent, mais on peut battre le cerveau humain sur des tâches très spécialisées. Par exemple, jouer aux échecs ou jouer au poker. Il y a un programme de poker qui bat les humains. Pourtant, c'est un jeu de hasard, le poker, ou au backgammon. Il y a des programmes qui battent les humains systématiquement, alors que ce sont des jeux de hasard, mais d'optimisation. Donc il faut être capable d'optimiser à chaque coup, de gratter la petite virgule de probabilité pour que ça se passe bien. Donc on a des moyens de calcul et de stockage délirants, qui vont être de pire en pire, parce que ça se stocke de mieux en mieux, donc c'est du délirant. Bon, c'est pas très sûr qu'on arrive à faire un cerveau humain, c'est pas écrit dedans pour l'instant. Alors je laisse ça pour la suite de la discussion, pour l'instant, pour pas prendre trop long. Mais voilà, donc on est dans une étape vraiment où techniquement, c'est absolument incroyable. Et moi, je vois l'accélération. C'est-à-dire, je vous disais, c'était 8 kilo-octets extensible à 16, 8000. Et on est à maintenant, à, disons, pour faire 8, 10 puissance 15. Donc ça veut dire 8000 milliers de milliards. Voilà, donc on a gagné dans l'échelle de ma vie. Même pas, beaucoup moins que ça, en fait, depuis que je suis ado jusqu'à maintenant, on a gagné un facteur 1000 milliards dans le stockage et la puissance de calcul des ordinateurs. Voilà, c'est un peu sidérant, je vous comprends. Moi-même, d'ailleurs.
Ok, très bien. En fait, j'ai oublié, dans la présentation de Sylvie, de dire ce qu'elle faisait dans la vie aussi. Et oui, professeur en sciences de l'information, et donc peut-être... justement, la question de qu'est-ce qu'on fait avec toute cette puissance.
Oui, j'étais en train de me dire en écoutant Roland que bon, je peux pas parler ici en tant qu'auteur de science-fiction parce que il est d'abord très difficile de traiter de sujets qu'on connaît un peu sérieusement scientifiquement. On a plus de mal à lâcher notre imaginaire. Donc je vais un peu prendre une casquette d'informaticienne repentie qui fait du traitement de l'information. Là, alors, l'exemple de Roland, c'est un très bon point de départ à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que on est en train de traiter des masses de données de plus en plus volumineuses. On est en train d'utiliser des modes de traitement de plus en plus complexes. Mais pour aller vite, quand on parlait de l'inquiétude liée à la singularité et de son éventuelle obsolescence, on envisage habituellement la singularité comme l'émergence d'une forme d'intelligence différente de la nôtre et non compréhensible et qui, a priori, aurait des intentions qui pourraient être... sinon malveillante, du moins complètement incompréhensible de notre point de vue. Je pense que cette inquiétude est obsolète, non pas parce que ça ne se produira jamais, mais parce que ça s'est déjà produit et qu'on oublie d'y réfléchir très souvent. Mais aucune forme d'émergence n'a émergé, et c'est ça qui est complètement paradoxal. On a actuellement, du point de vue du traitement de l'information, les gros domaines de recherche, c'est par exemple le big data. Le big data, vous en avez entendu parler, il s'agit d'accumuler des quantités phénoménales de données brutes qui, prises indépendamment les unes des autres, ne sont pas significatives, mais qui, lorsqu'on les rassemble d'un point de vue statistique sous des formes monstrueusement énormes, finissent par pouvoir faire émerger des tendances si on les exploite avec des algorithmes suffisamment performants. On dégage, disons, des tendances statistiques. Bon, ça a l'air bien anodin, mais ce qu'on est en train d'en faire, ça pose d'autres questions. Alors, je vais prendre un exemple un peu plus quotidien. Moi, on m'aurait dit, il y a 15 ans, un jour, tu vas te promener avec un petit appareil dans ta poche si tu es paumé dans n'importe quelle ville. Je suis tout le temps paumé, moi, j'ai aucun sens de l'orientation. On m'aurait dit, t'auras un petit appareil dans la poche qui pourra te dire... T'as mal à la tête, tu veux trouver une pharmacie et qui éventuellement le dira sous une forme vocale. La pharmacie la plus proche, elle est au prochain carrefour à droite dans la deuxième rue. Ça m'aurait paru extraordinaire. Il n'y avait qu'un être humain, intelligent, comprenant le français et connaissant la ville qui, dans d'autres circonstances, aurait pu me dire où trouver la pharmacie la plus proche. Il y a une petite machine qui peut le faire. Elle a absolument rien d'intelligent, cette machine, même quand elle s'appelle Siri et qu'elle est capable de vocaliser. C'est juste une machine qui a en mémoire toutes les informations issues des satellites qui permettent de cartographier la ville, toutes les informations d'origine commerciale qui permettent de situer des commerces et un certain nombre de lieux qui peuvent être intéressants pour une raison ou pour une autre. Et puis, on brasse toutes ces données et ça fournit un service intelligent. Mais il n'y a pas d'intelligence nulle part dans le service proposé. On est en train de perdre des quantités d'emplois, y compris des emplois qualifiés. On ne perd pas que des emplois peu qualifiés d'ouvriers. On commence à perdre des emplois qualifiés parce qu'on a des machines qui rendent des services intelligents en étant parfaitement stupides. Avant, lorsqu'on avait un voyage un peu compliqué à prévoir et qu'on allait à un guichet de la SNCF, on avait besoin d'un interlocuteur humain qui vous aidait à composer votre voyage en réfléchissant à l'endroit par lequel il fallait passer pour pouvoir avoir un train de nuit. Au moment de la nuit, c'est mieux si le voyage durait un peu longtemps. On avait besoin d'un conseil, d'une expertise. Maintenant, on est sur Internet, on a un système face à nous qui ne comporte absolument aucune trace d'intelligence, qui n'a aucune intention, mais qui nous rend un service qui a à peu près la même valeur. Je dis à peu près, bon, on pourrait discuter. Tout ça, c'est la même logique que celle du big data. Et le big data, parmi les structures qui sont extrêmement intéressées à utiliser cette masse de données, ben, il y a par exemple les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, à partir du moment où vous leur fournirez un certain nombre d'indications, rien qui ait à voir avec votre dossier médical, qui est couvert toujours par la confidentialité, on ne travaille pas sur des données personnelles, mais le simple fait de dire où vous habitez, quel âge vous avez et quelle profession vous exercez, pourra commencer à déterminer dans tel type de population à risque vous vous situez et influer bien évidemment sur le coût de votre police d'assurance. Dans un proche avenir, avec les mêmes données statistiques neutralisées, non nominatives, on va peut-être aiguiller des enfants de telle ou telle région, issus de telle ou telle famille, vers tel ou tel type d'études. Et moi, ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est pas le fait qu'une intelligence émerge, c'est le fait qu'on a délégué à des machines un certain nombre de prises de décision ou de conseils ou d'expertise et qu'elles le font sur des modes qui sont devenus tellement complexes au sens où, si vous les décomposez, il y a plein de petits machins dedans et que on ne comprend plus comment ça résonne. Il n'y a rien de mystérieux pourtant. Il y a une accumulation de petites choses toutes simples. C'est les systèmes multi-agents, c'est des tas de dispositifs comme ça où on a des tas de petits processus qui font chacun un truc bête, mais on les rassemble comme on rassemble d'énormes de masses de données. Et à eux tous, comme les réseaux neuronaux, les boîtes noires dont il sort une décision qu'on a pu valider par... Je suis bavarde aussi, donc tu me dis si je vais trop loin. Le principe des boîtes noires, c'est qu'elles ont une phase d'apprentissage. On leur dit quand elles ont pris une bonne décision, et puis au bout d'un moment, on considère que ça y est, elles fonctionnent bien. On va les laisser décider, mais on ne sait plus comment elles décident. On leur a juste appris, en gros, quand est-ce qu'on trouvait leurs résultats satisfaisants. Et on va bientôt se trouver face à des systèmes qui vont nous proposer des réponses ou des services, mais on n'aura plus personne avec qui dialoguer. On n'aura plus personne à qui dire « Non, ça ne convient pas, ce sera la règle. » Et je vais donner un dernier exemple d'un truc dont on se sert tout le temps, qui, à mon avis, a largement passé le cap de la singularité et on pourrait s'en inquiéter. Je l'ai déjà dit dans d'autres tables rondes, mais pas cette année. C'est les moteurs de recherche. La question de savoir quelles sont les sources d'informations les plus intéressantes à consulter quand on se pose une question. On l'a délégué à des moteurs qui ont été développés par des structures commerciales. Ces structures commerciales ont déposé des brevets sur la conception des moteurs. Le dispositif a une fonction essentielle. C'est pas seulement de rassembler, d'accéder à une énorme quantité d'informations. C'est d'abord et surtout de décider à notre place lesquelles on présente en premier. Quand on sait que 99% des utilisateurs d'un moteur de recherche ne dépasseront jamais la première page des résultats, que la plupart des questions actuellement vous proposent des centaines et des centaines de pages de résultats et des milliers d'informations potentiellement consultables. La question n'est jamais de savoir si on va tout regarder, personne ne peut. Mais la question de savoir qu'est-ce qu'on va nous présenter en premier, eh bien, elle devient sacrément importante. On a une vague idée de comment fonctionnent les algorithmes de Google et tous les autres. Mais ce n'est qu'une vague idée. On sait que le nombre de liens qui pointent vers un site relève de son audience, mais bon, il y a des...
C'est pas protégé par des brevets qui font
c'est protégé
de toute façon,
par un brevet.
On n'y a pas accès.
De toute façon, on n'y a pas accès. Et on s'en préoccupe pas beaucoup. Et on sait quand même, il y a... Moi, je forme des gens qui sont des spécialistes du référencement. Donc, on leur apprend les bons trucs à faire pour remonter dans les réponses de Google avec des stratégies commerciales qui commencent à être bien connues, qui consistent à mettre les bons mots, par exemple, dans les entêtes et dans les métadonnées associées aux informations. Bon, mais alors là, on finit par avoir une espèce de prise de décision de ce qu'il est important de lire sur un sujet donné qui n'a plus été confié à aucun être humain. Je suis prof aussi. Moi, je trouve que pour décider de ce qu'il est intéressant de lire, jusqu'à présent, on demandait soit à des experts, soit à des chercheurs, soit à des enseignants, de trier un peu dans tout ce qu'on pouvait dire sur un sujet pour décider de ce qui était plus valide qu'autre chose. Et bien maintenant, plus personne ne sait qui en décide ni comment. Et ça ne peut plus être explicité. Pour moi, la singularité, c'est ça. On est en plein dedans.
Oui. Je suis prof aussi et notre profession d'ici 50 ans a sans doute disparu. mais Laurent, dis-moi, comment ça se fait qu'on ait encore des inquiétudes aussi, comment dire, personnalisées autour de la singularité ?
Cette dépossession de l'homme au profit de la machine, c'est un vieux truc. On avait ça dans la peur de l'ordinateur géant qui s'accapare les processus décisionnels jusqu'à devenir l'âme de la ville et puis l'âme de la planète et puis l'âme de l'univers. Je me rappelle de The Answer de Brown. C'est peut-être la première singularité finalement puisque c'est une machine qui devient divine. Littéralement, hein, puisqu'elle génère un éclair qui va souder l'interrupteur qu'il avait en mode on.
Oui, on peut raconter l'histoire.
Rappeler l'histoire. Ouais, hein, on construit un magnifique ordinateur meilleur que tout ce qui a été fait avant, c'est l'histoire des années 50, et on se dit on va lui poser une question, et la question c'est est-ce que Dieu existe ?
Est-ce que Dieu
existe ? La réponse c'est maintenant
oui.
Il existe et il y a un éclair qui foudrait le questionneur et tout en soudant l'interrupteur il sera à jamais voilà. Donc cette idée de que l'homme a créé son propre dieu technologique après la chute des dieux après la chute nietzschéenne des dieux on va dire le elle est au cœur de la singularité. Pour moi, la première nouvelle sur la singularité, en fait, c'est celle-là. Pour moi, c'est un thème classique en réalité. Alors moi, je suis auteur de space opéra. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais venir en touriste hein, parce que dans mes histoires, il y a des IA qui font partie en fait de l'univers ordinaire humain. Il y a des IA voilà, qui font des tâches, qui interagissent avec les humains, qui ont peut-être leur propre but, on ne sait pas trop, ça dépend. Mais voilà, ça fait partie de l'univers. Donc la singularité n'a pas été dans l'univers que je décris et dans l'univers de plein de space opéra où à peu près tous maintenant intègrent des IA. Enfin, ça fait longtemps, hein, même avant ce qu'on appelait le nouveau space opéra. Déjà dans les années 80, on avait des IA tout à fait... intégré dans ces immenses univers. Et ça fait partie du background. Le space opéra moderne, c'est un peu une sorte de ça a rendu un peu obsolète justement cette idée de singularité qui est une idée un peu excusez-moi. Eschatologique en fait de la fin de l'homme tel qu'il est aujourd'hui ou en tout cas la fin de l'histoire. Dans le space opéra, l'histoire elle continue. Donc il n'y a pas eu cette espèce de singularité. Le principe de singularité, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui arrive dans le monde, mais qui n'est pas de ce monde, qui n'obéit pas aux mêmes lois, en fait.
qui rend la prédiction impossible au-delà du temps limite.
Voilà, simplement, c'est une sorte d'horizon.
C'est un horizon temporel,
mais une sorte d'horizon événementiel.
Au-delà de dans 20 ans, si ça se produit, on ne saura plus dire ce qui se passera au-delà, ou même on ne sait pas le dire par défaut, bien sûr. Les prédictions sont difficiles à faire, comme dirait l'autre, surtout quand elles concernent le futur. Mais du coup, ça devient si rédhibitoirement différent de ce qu'on connaît maintenant qu'on ne peut plus vraiment rien dire du tout.
Ce qui est en soi une sorte de gageure pour la SF, puisque justement son rôle, c'est justement de montrer des choses du futur, même si c'est métaphorique. Voilà. Et donc le space opéra tel que je l'ai imaginé, c'est un space opéra qui est comme tout space opéra qui est anti singularité, on va dire, dans la mesure où justement on présente un futur qui est totalement lisible, voilà, mais qui intègre des IA qui ont émergé à la conscience, mais simplement ça n'a pas amené cette espèce de fin de l'histoire et c'est cet horizon indépassable de la pensée.
Alors, pour revenir sur cette affaire de l'idée de Werner Vinge, qui était de constater que les puissances des ordinateurs doublaient, et fondées sur la loi de Moore, doublaient tous les 18 mois ou tous les 2 ans, ça a été vrai, c'est encore un peu vrai en ce moment, mais on sent qu'on atteint quand même une étape, enfin, je ne vais pas dire que ça se ralentit, mais on est en train d'atteindre les limites physiques de ce qu'on peut faire quand même. Si on ne fait pas de révolution technique, c'est-à-dire au sens si les ordinateurs ne fonctionnent pas dans le futur sur des modes radicalement différents de ceux sur lesquels fonctionnent maintenant, on va atteindre un moment donné où on fera... Alors là, on est à des transistors de taille extrêmement petite, dont la taille typique, c'est quelques nanomètres, donc des choses qui sont vraiment à l'ordre du milliardième de mètre. On est vraiment dans la gravure à des échelles qui sont quelques dizaines de tailles atomiques. Quand on fera des transistors à un seul atome, bon, super, ou une seule molécule, il y a... Bon, peut-être pas un atome, mais une seule... Super, on aura le transistor ultime, et après, après rien. Après, on ne fera pas de transistor plus petit que l'échelle ultime de la matière. Donc, on ne sait même pas si on saura faire un jour des transistors, par exemple, à l'échelle moléculaire, disons, mais on sent bien qu'il y a une sorte de limite physique quand même dans cette course-là. Et si on atteint cette limite physique, pour l'instant, on a toujours tout ce qui nous paraissait être une limite ultime, par exemple, pour faire les gravures des microcomposants. On fait une photographie, c'est de la photolithographie. Donc on dessine en gros crayon baveux, on dessine sur une grande planche, et puis on la réduit, on éclaire par de la lumière ultraviolette. Si on veut faire des trucs pas trop gros, pas trop petits, on éclaire avec de la lumière ultraviolette, c'est ce qu'on faisait avant, sur une surface photosensible. Ça fait une ombre. Là où la lumière a frappé, ça a transformé le substrat. Là où elle n'a pas frappé, là où elle est restée dans l'ombre, il ne s'est rien passé. On peut décaper par des solvants ou des produits habilement choisis la partie lumineuse qui a été éclairée ou la partie non lumineuse. C'est vraiment comme du développement photographique. Et le problème, c'est que pour avoir des toutes petites tailles, il faut chaque fois avoir des sources de lumière dont la longueur d'onde est adaptée à la taille que vous voulez résoudre, à la taille que vous voulez atteindre. Donc la lumière ultraviolette, c'était très bien au tout début, il y a très longtemps, dans les premiers microprocesseurs. Puis maintenant, on en est dans les rayons X. Le problème, c'est si vous n'avez pas la source de lumière pour le faire, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas la source de lumière qui fera la photographie d'une certaine façon. Donc maintenant, quand on voit aussi le prix que ça coûte, une usine de fabrication de microcomposants, c'est typiquement 2 milliards de dollars. Donc ça veut dire que les investissements sont colossaux. Il faut espérer se les rembourser, faire rembourser d'ailleurs. Ce n'est pas une entreprise de charité publique, évidemment, ce genre de gars-là. Donc ça coûte de plus en plus cher aussi de faire ça. C'est des sources, on ne saura pas si on sait les faire. Bref, il y a des limites physiques à ce qu'on va savoir faire. On avait chaque fois l'impression que on ne saura pas faire de source en rayons X. On a fait des sources à rayons X bien propres. On ne saura pas les faire avec une longueur d'onde plus courte. On a su les faire. Donc on peut se dire, à chaque fois. Non, mais il y a quand même, à la fin de la fin, il y a une limite physique quand on fera en gros le processeur, le microcomposant, ou plutôt le transistor à une molécule, disons, avec un seul électron qui passe et paf, ça fait changer d'état la mémoire. Une fois qu'on aura atteint ce statut-là, il n'y aura pas de composant à un demi-électron ou à une demi-molécule. D'accord ? Donc il y a une limite physique qui va se passer. Sans parler du fait que ça consomme de l'énergie de faire tout ça. Chaque petite opération consomme de l'énergie. Alors évidemment, au début, ça consommait des kilowatts pour faire fonctionner une mémoire minable de 1 mégaoctet. Maintenant, une mémoire minable de 1 mégaoctet, on n'en parle même pas, parce qu'on en est plutôt au téraoctet pour la discussion. C'est des petits machins qui se branchent directement sur le port USB, qui sont alimentés par l'ordinateur. Donc c'est des machins, ils n'ont même pas d'alimentation externe. Donc on a réussi quand même à se débrouiller pour faire des choses qui sont à la fois plus performantes techniquement et plus économe énergétiquement. Mais c'est pareil. À un moment donné, on va buter sur l'énergie qu'on dépense. Il va falloir la dissiper. Vous avez déjà regardé peut-être un. Si vous jetez un ordinateur une fois, avant de le jeter, ouvrez-le et regardez la gueule du microprocesseur. Le microprocesseur, c'est un truc d'abord, c'est plein de poussière. Et puis c'est tout vide. Et puis le microprocesseur, il a une taille qui fait, alors, on va dire en rond, en chiffre rond, 2 cm par 2 cm.
Enfin, c'est le ventilateur qui est gros.
Et après, vous avez un putain de truc métallique au-dessus pour faire le radiateur et un putain de ventilateur monstrueux pour aider le radiateur, la partie métallique, comme l'arrière de votre frigo, à évacuer la chaleur. Donc, à un moment donné, si vous voulez, le composant, il va être gros comme un grain de sable et il va falloir brancher 8 tonnes de ferraille pour évacuer la chaleur continuellement pour éviter que le truc fonde. Bon, alors, on sait faire d'autres choses, on fait des refroidissements liquides, mais dans le grand public, on ne fait pas de refroidissement liquide. Dans les super ordinateurs, il y a eu. Maintenant, on fait des refroidissements arrière très performants, mais il y a eu du refroidissement liquide. Donc, on fait circuler de l'eau directement autour des composants. Donc,
une centrale nucléaire.
Exactement, c'est comme dans une centrale nucléaire. D'ailleurs, il y a même des gens.
On pourra peut-être se chauffer avec son ordi.
C'est très exactement ce qui se passe dans certains endroits. D'ailleurs, il n'y a qu'à rentrer dans notre salle de machine. Nous, notre service d'astrophysique à Saclay, on a une petite salle des machines. Hein. C'est juste une pièce d'appartement. Ça fait 25 mètres carrés. Il n'y a qu'à rentrer dedans. Et pour être assourdi par le bruit de toutes les machines qui tournent, mais ce n'est pas les machines, c'est les ventilateurs des machines et les ventilateurs des ventilateurs, c'est-à-dire la pièce elle-même est refroidie. Donc, tous ces watts-là, toute cette énergie-là, on pourrait la récupérer pour chauffer le bâtiment. D'ailleurs, ça se fait, puisque maintenant, dans une démarche, disons, écologique, prétendument écologique, pour dire, bah, regardez, tous ces gros centres de calcul, on va les construire près d'un barrage, par exemple, déjà, plutôt que de pomper l'énergie du réseau. Et Google fait ça, mais aussi pour avoir son indépendance énergétique. Il prend un barrage, et il dit, maintenant, j'achète le barrage, en gros. Toute l'énergie du barrage, c'est pour ma pomme et mon centre. Et puis, la chaleur dégagée par les machines, elle va servir à chauffer les bureaux des gens qui travaillent dans le centre. Donc, ils sont là pour dire, oui, on réfléchit à tout ça. Bon, évidemment, la fabrication des composants eux-mêmes a un bilan climatique, un bilan carbone, si je veux dire, qui est absolument catastrophique. Mais enfin, ils essaient de faire un petit effort, disons. Enfin, il y a des limites physiques. Et pour un physicien, dire qu'il y aura la divergence, etc., le doublement tout le temps, moi, j'y crois pas du tout. Il y aura des limites physiques qui vont s'imposer à nous. Et si on ne change pas radicalement la façon dont on conçoit une machine qui fait des calculs, alors, il y en a qui vont vous parler d'ordinateurs quantiques ou de je sais pas quoi. Pour l'instant, c'est des machins, je peux vous dire, il ne faut pas que ça la ramène trop, les ordinateurs quantiques, parce que ça sert à peine faire une opération simple. Peut-être ça fera des choses géniales un jour, donc il ne faut pas se moquer parce que tout a commencé un peu minable. N'empêche que si ça ne change pas radicalement, on ne va pas gagner des ordres de grandeur maintenant. Maintenant, on les a déjà gagnés depuis voilà, les 1000 milliards, les 10 puissance, les 12 ordres de grandeur, les 10 facteurs 10 puissance 12, on l'a gagné dans ma durée de vie, en gros, dans un peu moins que ma durée de vie, mon âge. Donc, il ne faut pas tellement s'inquiéter de l'émergence du... Peut-être qu'il y aura une émergence d'une conscience, peut-être, bon, dans une machine. Mais je suis plutôt d'accord avec Sylvie, pour le coup, que c'est effectivement le fait que, finalement, les humains vont devoir se plier. C'est même pas la machine qui... C'est pas Skynet qui va arriver, qui va vous dire, allez les humains bosser, mettez les doigts dans la prise, c'est vous qui allez faire la pile. C'est pas ça qui va se passer, c'est...
Ça, c'est Matrix.
Donc, ce qui va se passer, c'est plutôt les humains vont devoir... Parce qu'eux sont souples, parce qu'eux sont intelligents, vont devoir plier leur comportement parce qu'il y a des machines grotesquement stupides en face d'eux et ils vont devoir s'adapter et adapter leur comportement aux machines grotesques qui sont en face d'eux. Déjà, vous appuyez sur les touches qu'on vous demande d'appuyer pour réserver un billet de train et si la machine, elle dit un problème, elle veut recommencer depuis le début. Quand c'est un humain, vous lui dites, bon, on va recommencer. Et puis au bout de 3 fois, vous dites, écoutez... À un moment donné, il se pose le problème de la compétence professionnelle. La machine, la seule solution que vous avez, c'est mettre un coup de pompe dedans, quoi. Et ça ne résout pas le problème, évidemment. D'accord ? Et l'humain non plus, si vous lui mettez un coup de pompe dedans, ça ne résout pas le problème. Mais dans la machine, c'est la seule solution que vous avez. Vous ne pouvez pas essayer de la raisonner. Donc vous devez la contourner. D'ailleurs, ça se constate tout le temps. Et il y a des tas de contraintes imposées par des machines, alors particulièrement par des machines électroniques. Et vous essayez de contourner ça pour essayer de garder votre statut d'humain, finalement. C'est vous qui avez le pouvoir. Mais en fait, non. Parce que votre comportement, il est pour partie modelé par ce que la machine sait faire et pas faire. Elle peut le faire très rapidement, très efficacement, mais que des tâches, en fait, extraordinairement spécifiques. Déjà, la machine, pour être consciente et qu'elle puisse parler en langage naturel, bah, la machine qui utilise le langage, qui comprend ce que vous dites et qui vous répond et vous comprenez en langage, elle vous parle, c'est pas terrible. Hein. En gros, ça, c'est à peine vendre un billet de train, quoi. Alors, peut-être, elle saura faire ça. Mais alors, parler comme ça en « bonjour, comment ça va ?»« Oui, comment tu t'appelles ?» etc. Il y a des choses qui miment ça. C'est le fameux... Bon, on pourra en reparler après, le fameux test de Turing. Mais c'est tout écrit d'avance. Et en réalité, bon, c'est pas des machines conscientes.
Oui, j'étais en vous écoutant, j'étais en train de me dire qu'en fait, j'ai écrit une nouvelle de science-fiction exactement sur ce thème. J'y pensais même pas. Mais elle va sortir le mois prochain. Et dans cette... un peu quand même. Parce que je vais pas raconter l'histoire, juste la singularité qui se produit dedans. Donc, on n'a pas besoin que la puissance de calcul commence à continue à augmenter au même rythme. On a déjà des petits appareils extrêmement complexes. Alors, c'est vrai qu'on pourrait parler du coût écologique des mines, de la dégradation de notre environnement qui est causée par ces machines et qu'on oublie souvent. Mais moi, dans mon histoire, j'ai simplement mis en scène quelque chose qui, pour des gens qui auraient suffisamment de moyens financiers, serait pratiquement déjà réalisable, c'est-à-dire un environnement domotique réellement intelligent, mais intelligent au niveau de ce qu'on sait faire actuellement. Donc c'est tout bête, hein, j'ai un réfrigérateur qui communique avec le cuisineur. Quand il manque quelque chose, le cuisineur a le droit d'aller sur le réseau pour passer commande, aller chercher les trucs qui manquent. Il y a un chat, mais c'est un Minou 2.0, parce que c'est quand même... et puis bon, il n'y a pas de caisse à vider, et puis c'est pas si difficile de simuler un comportement d'un animal domestique. Et puis, comme par rapport aux machines de Turing, quand on a décidé de se prendre d'affection pour quelque chose, c'est pas le fait de savoir que c'est un robot qui va nous en empêcher. L'affection, c'est quelque chose de totalement irrationnel. Et les enfants adorent leurs poupées, et nous, on adore des tas de trucs. On met des valeurs sentimentales là où on en a envie. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence de la chose en question. Et donc, dans mon histoire, à un moment donné, ces créatures dont je ne sais pas si elles sont intelligentes ou pas, dans mon histoire, je me suis bien gardée de clarifier la chose, les êtres humains qui les ont pris d'affection découvrent un jour que le Minou 2.0, enfin, que le réfrigérateur, qui est le seul à accéder au réseau, a été passé une commande un peu bizarre puisqu'il a commandé des manettes. Donc ils se disent, bon, ben, on va mettre les manettes sur le frigo, ça doit lui faire plaisir. À ce moment-là, il y a l'aspirateur qui va chercher l'appareil photo parce que lui, il a des organes qui lui permettent de déplacer les objets pour faire la poussière. Et il va prendre une photo du réfrigérateur. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ils suivent le chat qui, lui, a un accès au réseau privé. Et le chat est en train de poster sur le réseau social des selfies du réfrigérateur avec ses manettes. Donc voilà, l'accomplissement ultime, l'intelligence qui s'est incarnée. Oui, c'est dans le prochain Galaxy.
Le jour où ta porte te menacera de te traduire en justice si tu mets pas 5 cents, là tu te diras ça y est, je suis bien dans les univers dickiens. Mais c'est marrant comme Dick finalement est un auteur du futur, peut-être pas comme il l'avait pensé lui, mais il est
Dick et Shelley. Je crois qu'on a parlé de deux auteurs du futur qui ne vieillissent pas.
Tout à fait. Et...
On a déstabilisé notre modérateur.
Mais non, mais je voulais juste faire remarquer, ça, c'était une des choses que disait Laurent sur le space opéra. Un auteur comme Charles Stross, qui met effectivement beaucoup de technologies explicites et beaucoup de références à la singularité dans ses œuvres, trouve toujours des stratégies de contournement pour donner un point de vue humain et pour, par exemple... avoir des lois qui brident les intelligences artificielles dans certaines planètes. Enfin, bon,
on peut considérer comme ça, que la singularité, c'est un... Pardon. On peut considérer que la singularité, c'est une sorte... On peut l'interpréter comme une percée majeure, comme une percée scientifique majeure. C'est-à-dire, les IA accèdent à la conscience. En général, c'est ça. Hein. Enfin, ce qu'on prend comme point de basculement, c'est ça, en général. On crée des IA qui évoluent, qui crée elle-même des IA en fait, on applique tout simplement une logique darwinienne une logique évolutionniste à la pensée, voilà, tout simplement, à la pensée artificielle. C'est ça, en fait, le fondement de la singularité technologique. En fait, elle est là. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire.
Mais c'est pas grave, parce que je voulais dire autre chose. Comme ça, je vais t'interrompre. Il y avait une autre idée que Werner Vinge, dès son article d'origine, mettait en avant. C'est qu'il n'y aurait peut-être pas une séparation, en fait, entre l'IA et l'humain. Il n'y aurait pas une IA qui nous considérerait comme ces animaux domestiques.
Merci.
Mais que ce ne serait pas l'IA, que ce serait la I. En anglais, que ce ne serait pas AI, mais IA. C'est-à-dire que ce ne serait pas l'intelligence artificielle, mais l'assistante intelligente, c'est-à-dire le fait que les humains eux-mêmes, qui à l'heure actuelle, quand ils mettent des données dans le réseau, dans le pot commun informatique, par exemple, je sais pas, les notes que mettent les lecteurs sur Amazon, hein, et qui contribuent au choix des livres et qui contribuent à faire monter les trucs avec des étoiles, on peut dire que c'est un peu garbage in, garbage out. C'est-à-dire, tu mets des cochonneries dans la machine, il ressort des cochonneries, hein, et les cochonneries viennent de l'humain, finalement. Donc l'idée que grâce à des assistances informatiques bien choisies et soumises à l'humain, les humains eux-mêmes auraient un niveau d'intelligence amélioré parce qu'ils auraient des moyens augmentés. Évidemment, nous n'avons aucune idée de vraiment comment le faire, mais on peut y réfléchir. C'est une autre direction qui est une tentative de résoudre par la symbiose, si tu veux, la difficulté, la dialectique homme-machine. Mais Laurent, tu...
J'ai l'impression qu'on va radicalement dans le sens inverse, mais quand on voit le manque de mémoire croissant des gens simplement parce qu'on a externalisé nos mémoires... Même le internet checking, le fact checking par smartphone, c'est bien que on a de plus en plus de mal en fait. Et oui, en fait, c'est, je pensais plutôt à il y a deux singularités. Il y a la singularité originelle qui est celle de d'une sorte de singularité radicale où effectivement qui est un mur qui est un mur de l'avenir. Et quelques écrivains ont eu ont osé casser ce mur de l'avenir pour aller voir derrière. Au final, on a des histoires que je trouve plutôt conventionnelles, c'est assez marrant, de survie de l'humanité finalement, au sein d'une technosphère devenue tellement intelligente et autonome que l'humain se fait décentrer en fait. C'est une sorte de
zoo de réserve naturelle.
Oui, puis c'est une sorte, on a une sorte de peur copernicienne, on va dire, c'est-à-dire de se faire. Après tout, on a été délogé du centre de l'univers plusieurs fois, spatialement, au niveau temporel, et maintenant au niveau de l'intelligence. C'est l'ultime décentrement de l'humain, c'est l'ultime relativisation de l'humain en tant que si on n'est même plus la créature élue, il ne nous reste plus rien. C'est ça aussi la peur eschatologique de la singularité radicale. Donc c'est pour ça que ça c'est un peu c'est devenu un peu plus soft. Les propositions sont devenues plus soft, peut-être parce que cette peur là elle est indépassable quelque part.
Il me semble qu'il y en a un qui a transcendé, qui n'a plus l'humain au centre de son univers, mais dans une approche très moderne et originale, c'est Ian Banks, où c'est la culture qui est l'idée centrale, c'est plus l'humain. Et alors même que paradoxalement l'humain est tout puissant, que plus rien ne le limite, qu'il peut faire ce qu'il veut, mais il est plus au centre, c'est la culture.
Non, mais attention. D'abord, il a twisté ça parce que c'est une fédération de milliers d'espèces. Donc l'humanité là-dedans, elle est rien du tout. Hein. On est dans un space opéra. Et l'originalité, c'était la forme des IA. Les manteaux, c'est des intelligences vraiment post-singularité qui ne sont pas humaines, qui sont capables d'avoir des conversations avec des milliards de personnes en même temps. Donc c'est vraiment des sortes d'esprits tutélaires qui règnent sur des vaisseaux de plusieurs dizaines de kilomètres de long, sur des drones eux-mêmes super intelligents mais qui sont des sous-parties de ces IA qu'il appelle les manteaux. Il a créé quelque chose, une sorte de nouveau type d'IA.
Qui sont très humaines, elles ont leur petite dispute mesquine, elles ont leur petite révolte. Et en fait, il dit dans ses livres à un moment, la culture, ce sont ces machines. Mais elles sont bienveillantes. Et finalement, elles obéissent à une sorte de loi asimovienne non dite, qu'elles se préoccupent du bien-être des humains. Mais je crois qu'il est temps de laisser accéder à la conscience le public qu'on a devant nous. D'ailleurs, je félicite les techniciens parce que l'éclairage par rapport à hier est bien meilleur. On peut se voir mutuellement et c'est très agréable. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un micro-baladeur quelque part ? Oui, voilà, là-bas derrière. Donc, il y a des gens qui ont des questions déjà, je vois. Il y a quelqu'un devant, là. Donc, au troisième rang, je vois quelqu'un qui a levé la main très vite. Au troisième rang, vers le milieu, avec un col bleu, là. Il y aura la dame au premier rang après, oui.
Bonjour.
Comment dire, on a beaucoup parlé de l'émergence de l'intelligence des ordinateurs, mais est-ce qu'on pourrait envisager la singularité comme étant juste un changement de l'intelligence humaine vers les ordinateurs, à savoir la discipline de l'optogénétique, qui est la cartographie des réseaux neuronaux des humains, pourrait envisager justement un changement de substrat de nous humains et de nous numériser et de nous injecter dans des ordinateurs. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir sur nos sociétés? Et est-ce que ça pourrait être une nouvelle singularité?
C'est ce qui se passe dans Transcendance, hein, je crois, le film.
Tout à fait.
Donc oui, ça a été traité. Ça a donné un film assez moyen, d'ailleurs. Donc, un exemple concret.
Techniquement, on n'y est pas encore, quoi. Disons le brain downloading, comme on dit. C'est-à-dire votre cerveau, vous le téléchargez dans un support qui n'est pas à votre cerveau. On n'y est pas encore d'assez loin. C'est-à-dire que,
et on peut douter que ça arrive un jour. Hein.
Et on peut douter pour l'instant. Enfin, on peut toujours douter du futur, mais c'est vrai que pour l'instant, on en est quand même assez loin. C'est-à-dire la cartographie, on a une cartographie assez précise du réseau de neurones d'une souris, par exemple, d'un animal, disons, du niveau d'une souris. Il y a le Human Brain Project avec 5 milliards d'euros sur les 5 prochaines années, enfin, qui a commencé depuis un an, où déjà les gens sont en train de se taper sur la gueule, donc ça ne va pas se faire tout de suite. C'est fait par des humains, c'est ça le miracle. Quand c'est fait par des humains, c'est le bordel, mais des fois, c'est bien. Parce que quand c'est pour déclencher la guerre, le fait que le mec se tape sur la gueule d'abord en train de savoir qui appuie sur le bouton, ça donne un peu de temps. Donc c'est bien qu'il y ait un petit coefficient de frottement avec les humains de temps en temps. Donc là, le Human Brain Project est l'équivalent américain, donc ce projet, quand même, qui est, c'est pas que de la cartographie du réseau neuronal humain, mais c'est aussi essayer de faire des simulations du côté informatique, c'est aussi du côté des sciences cognitives. Enfin, c'est attaquer le problème du cerveau humain, la question du fonctionnement fin du cerveau humain, de tout un tas de disciplines différentes, avec un budget qui est assez conséquent. Là, on en est au balbutiement, donc on est en train de lancer l'opération. On n'a aucune idée de ce qu'on saura faire une fois qu'on aura toute cette information. Parce que pour l'instant, on ne l'a pas et on ne sait pas sous quelle forme elle se présentera. Mais quand on savait, quand on a commencé à cartographier le génome, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire avec. Maintenant, on sait très bien ce qu'on va faire avec. On va breveter des génomes, quoi. Enfin, on va breveter des modifications génétiques. Enfin, je veux dire, ce qui se passe finalement, c'est un peu ça qui est finalement derrière. Donc, je ne sais pas trop. Bientôt, il y aura les humains 2.0 avec un cerveau légèrement modifié, un peu mieux, peut-être, plus rapide ou plus je sais pas quoi. Et puis, ceux-là, il va falloir lâcher quelques zillions de dollars. Donc, pas vous, pas typiquement, hein, sauf particularité, pardon, voilà. Donc il va y avoir, ça pourrait plutôt que donner une humanité généralement qui se transforme globalement, mais plutôt des îlots. Mais ce serait la même chose pour les humains d'abord réparés. On vous vend des tas de prothèses super. Moi, si j'ai un jour je perds un membre, je serais ravi d'avoir un bras qui va gérer le membre manquant, enfin l'action du membre manquant. Et puis après, il y a toutes les conséquences de ça que la SF a aussi bien envisagé, avec les mains augmentées, du coup. Les yeux qui voient dans le noir, les bras qui sont super forts. Donc voilà, pour la partie cerveau, on ne sait pas ce que ça va donner. Pour la partie gène, maintenant, vous avez peut-être suivi l'actualité dans la génétique, il y a ce ciseau génétique, CRISPR-Cas9, là, qui coupe maintenant, qui fait des coupures exactement où on veut. Mais avant que la méthode la standard prenait 2 ans ou 3 ans pour insérer un gène à un endroit, c'était une galère, c'était compliqué. Maintenant, ça prend 2 semaines ou 3. Donc ça veut dire que cette percée, c'est dû à une chercheuse française et puis en collaboration avec une collègue américaine. Mais donc d'une part, on peut dire c'est génial, on va pouvoir faire des tas d'études sur les maladies génétiques, des machins. Mais après, il y a toujours des gens qui vont se dire tiens, cool, on va pouvoir tester des tas de trucs cool aussi, quoi. Et puis ça prend 2 semaines au lieu de prendre 2 ans. Donc ça va. Ça y est, c'est reparti, l'exponentielle de... On fait des tests, plein de tests, elle est repartie. Donc, voilà. Pour cette affaire-là, je pense qu'on en est assez loin, techniquement, pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais. Mais on en est assez loin. Mais comme tout va très vite, bon, peut-être que...
Et puis, dans la SF, c'est Ghost in the Shell qui a exploré de fond en comble cette problématique.
Oui, c'est...
Oui, ça marche.
Bon, c'est un peu la suite de la question. Alors, je reviens quand même à un auteur, alors je ne sais plus si c'est les années 80 ou 90, qui s'appelle Ray Kurzweil. Enfin, j'espère que vous connaissez. Oui. Alors, il me semble que dans son livre, le livre de base, enfin, que d'abord, il ne parle pas seulement du développement informatique, d'une part, mais c'est ce qu'il appelle la convergence NBIC. Et il me semble que dans son raisonnement, il avait prévu justement l'argument énergétique et il avait prévu l'argument limite. Je ne sais pas, je me souviens plus du raisonnement, mais enfin, il essayait de démontrer que c'était tout à fait surmontable. Alors ça, c'est la première question. Et la deuxième question, donc c'est sur les technologies, donc NBSC, la convergence. Et la deuxième question, alors, c'est sur l'histoire du big data et de la publicité, enfin, de l'intérêt commercial. Alors, si on suit la logique, effectivement, du big data, est-ce que finalement, on en arriverait à une impossibilité pour XYZ, l'individu, tout un chacun, d'accéder réellement à l'information qu'il recherche? Autrement dit, Google aurait tué la poule aux œufs d'or et on se retrouverait dans un univers de censure parfaite. Voilà.
Je vais répondre d'abord sur Ray Kurzweil et son idée. Effectivement, il avait déjà discuté de ça en disant, après tout, regardez, il y a des nanomachines dans nos corps, on dissipe de l'énergie. Nous, chacun d'entre vous, ça ferait 80 watts, d'où l'intérêt d'avoir une climatisation ici. Sinon, à 300, ça fait 24 kilowatts là, qui sont lâchés tranquillement. Donc, le problème, c'est que Ray Kurzweil a oublié la chimie. C'est qu'en chimie, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et que l'idée que l'on puisse manipuler la matière au niveau atomique ou moléculaire comme on veut, pas comme elle peut, et on essaie de faire au mieux après en mélangeant les bons produits, pas de faire de la chimie, mais au niveau moléculaire, il oublie des choses très importantes. C'est pas moi qui fais ces remarques, c'est un chimiste hein, d'ailleurs qui avait tout à fait logiquement fait ces remarques. C'est qu'on ne peut pas, à l'échelle nanométrique, disons à l'échelle des molécules, les choses ne se passent pas comme à notre échelle à nous. C'est pas, ah, je veux assembler, j'ai un petit bras qui arrive, il prend, il déplace, il déplace. À l'échelle moléculaire, vous prenez un truc, voilà, vous êtes comme ça. Merde, c'est collé, quoi. Il y a une liaison qui se passe. Et quand c'est collé, c'est fini. C'est pour le casser, il faut mettre de l'énergie dedans. Donc, si c'est pas collé, vous êtes content, mais vous pouvez pas le manipuler. Et puis, quand c'est collé par de la chimie. Et par exemple, si nous sommes grands et nous pouvons marcher sur le sol sans rester collés au sol, c'est parce que nous sommes grands. Si nous étions des tout petits êtres, par exemple, je prends un exemple d'un super-héros récent qui est sorti au cinéma, qui est Ant-Man. Ant-Man, il est tout petit et il marche comme il veut, mais... Non. Comme il est tout petit, alors d'abord, il y a des tas de problèmes des champs d'énergie, mais simplement, comme il est tout petit et qu'il commence à explorer le monde de la matière à une échelle qui est de l'ordre plus grande, bien sûr, parce qu'il fait une fraction de millimètre ou un millimètre, peut-être, comme une fourmi, disons, eh bien, il va commencer à subir des forces qui s'expriment à son échelle et qui ne s'expriment pas à notre échelle. Par exemple, il ne peut pas rentrer dans l'eau, parce que la surface de l'eau, c'est des molécules qui se comportent, qui se lient entre elles et qui font ce qu'on appelle une tension superficielle, et la surface de l'eau se comporte comme une sorte de pellicule élastique. Que nous, la question se pose même, on rentre dans l'eau. Une fourmi ne peut pas se noyer, elle ne peut pas rentrer dans l'eau, parce qu'elle n'arrive jamais à percer la surface de moléculaire d'eau. Elle ne la perce pas à cause de cette tension superficielle. Donc il y a des lois qui s'expriment à une certaine échelle de taille, qui ne s'expriment pas à notre échelle de taille. Et donc l'idée qu'on pourrait faire des sortes de petits grues moléculaires qui prendraient les trucs tac, 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 super vite, là, comme les nanomachines que Drexler imagine et que Kurzweil imagine aussi. Ce sont des arguments qui ignorent complètement la façon dont se passent les lois de la physique, de la chimie, à toute petite échelle. Donc il y a d'autres problèmes que simplement, vous avez tout à fait raison, que les limites physiques de taille et d'énergie. Il y a des limites aussi de la façon dont se comporte la matière à ces petites échelles.
Alors Google ne censure rien. Simplement, si toutes les réponses sont accessibles, vous avez peu de chances d'aller lire ce qui se trouve en page 153. Donc, on ne peut rien reprocher à Google sur ce plan-là, et il faut faire des choix. Moi, mon rêve en tant que chercheur, ce serait qu'on dispose d'une palette d'outils différents ou d'outils très paramétrables pour que chacun puisse dire des choses du style « je veux avoir une bonne représentation de la diversité des points de vue » ou bien « je ne veux que les points de vue des scientifiques légitimes dans leur domaine » ou bien « je veux, je ne sais pas... » les retours que la presse a fait sur tel ou tel événement ou telle question. Si pour discuter vraiment de ce problème-là, il faudrait parler d'économie et de monopole, qui est un vrai problème dans le secteur de l'informatique, mais qu'il est aussi dans des tas d'autres secteurs, dans l'aéronautique ou dans... Et dans toute situation où il n'y a plus qu'un acteur ou un nombre très restreint d'acteurs qui occupent l'ensemble du marché... Malheureusement, on est dans des contextes où ça a l'air de plus en plus fréquent. Il n'y a pas une grande diversité de solutions qui émergent. Donc, ce sont les plus efficaces commercialement qui occupent tout le marché à eux tout seuls.
On va prendre une question de plus. Est-ce qu'il y a...
Pas
Oui, deuxième rang, il a déjà le micro. Alors, allez-y.
Oui, bonjour. Au niveau de la singularité technologique, alors ça avait commencé à être un petit peu amorcé à un moment. C'est qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir la super intelligence artificielle façon Skynet. Tout simplement, à partir du moment où Intel, Samsung, Google et autres commencent par remplacer les ingénieurs par une machine qui n'est pas forcément intelligente, mais qui est capable de mieux concevoir les futurs processeurs et mieux faire les nouveaux algorithmes. Et à partir de ce moment-là, on a un effet récursif qui fait que les nouveaux ordinateurs et algorithmes engendrent de meilleurs ordinateurs et nouveaux algorithmes et du coup parviennent à quelque chose qui est inconnu. Pas forcément néfaste hein, d'ailleurs, mais quelque chose d'inconnu.
C'est le mécanisme que décrivait Vinci, mais est-ce qu'on voit des traces de ce mécanisme dans la conception assistée par ordinateur à l'heure actuelle ?
Oui, oui, bah, c'est déjà des choses qui se font. Mais on peut améliorer l'efficacité, on peut améliorer l'optimisation, la taille, la quantité d'énergie utilisée. Mais bon, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on leur demande à ces petites bêtes ? Qu'est-ce qu'elles... Bon, la conscience de soi d'une machine... ce n'est pas du tout évident qu'elle émerge un jour. C'est pas la quantité de ni la puissance. C'est pas parce qu'on est plus gros que c'est mieux. C'est pas parce que c'est plus grand que c'est mieux.
Dans le domaine de l'algorithmique, juste pour répondre de notre côté, il y a une gamme d'algorithmes qu'on appelle les algorithmes génétiques, qui sont fondés sur c'est des algorithmes qui vont tester une solution qui est elle-même produite par un autre programme ou qui est simplement une solution technique. Un objet à trois pattes, vous posez un objet à trois pattes et en bougeant une patte au hasard, vous voyez si ça avance ou ça avance pas. Et vous le faites ça 50 fois, et puis si ça n'a pas avancé au bout de 50 fois, si ça n'a pas progressé de au moins une fois sa longueur, vous dites bon, ça c'est une mauvaise solution, sinon c'est une bonne solution, je la garde. Et puis ensuite, les solutions que vous avez gardées, vous les transformez un tout petit peu, vous changez la position des pattes, vous faites je ne sais pas quoi, et à la fin, vous faites des itérations comme ça en sélectionnant, enfin, c'est ça l'algorithme génétique, si vous appliquez une manière de darwinisme, sur des objets, qui peuvent être des objets virtuels, des machins à trois pattes qui n'existent pas, pour voir s'ils arrivent à avancer, trois ou 50 pattes, pour voir s'ils arrivent à avancer, ou même sur des logiciels, vous pouvez tester des formulations de logiciels différentes et vous regardez celui qui va donner la réponse ou qui va donner ce qu'on veut qu'il fasse le plus efficacement possible. Par exemple, en cryptographie, il y a des façons de décrypter décrypter qui fonctionnent sur des algorithmes génétiques. Vous cherchez la clé et vous prenez une clé au hasard, vous voyez que ça ne marche pas. Mais vous prenez des milliards de clés au hasard. Il y en a qui vont comme donner des choses moins dégueulasses que d'autres. C'est-à-dire que ce sera toujours mauvais, mais ce sera moins loin du français, par exemple, si vous attendez à ce que le message décrypté soit en français, moins loin du français que le bruit blanc. Et puis à la fin, vous finissez par tomber sur la clé. J'ai déjà programmé ça quand j'étais plus jeune. C'est très marrant. Donc il y a déjà des outils qui vont produire une solution dont vous ne pouvez pas dire à l'avance, une solution technique, de machin qui bouge, par exemple, dont vous ne pouvez pas dire à l'avance la forme qu'elle va prendre, parce qu'elle va résulter d'une manière d'évolution. Mais qui vous sont programmés. C'est-à-dire, vous programmez les lois de l'évolution. Vous dites, ben voilà, j'en tire plein au hasard, je regarde comment ça fonctionne, je donne une note. Là, quand la note n'est pas bonne, je dégage. Quand la note n'est pas trop mauvaise, je garde. Et dans le trou qui reste, ceux que j'ai gardés, je leur fais des petites modifications, je les complète, je complète ceux qui ont été dégagés et je recommence. Et vous faites ça des millions de générations par seconde, si vous avez des gros moyens de calcul, donc ça va extrêmement vite. Mais il y aurait aussi bon, après c'est un autre domaine, mais en biologie, il y a aussi toute l'évolution dirigée, ce qu'on appelle l'évolution dirigée. C'est l'équivalent de ça. Vous prenez des bactéries, vous les faites dans un conteneur à bactéries, vous les nourrissez normalement, tout va bien. Et petit à petit, vous changez la façon dont vous les nourrissez. Vous les nourrissez avec un autre truc que d'habitude, elles ne mangent pas. Mais vous le mettez dedans. Alors il y en a qui vont crever parce qu'il n'y aura pas assez de bouffe, mais il y en a qui vont, dans les mutations au hasard qui se produisent, il y en a qui vont s'adapter. Et à la fin, vous trouvez dans votre sauce des bactéries qui mangent le truc impossible à manger au départ. Voilà, donc voilà, il y a des choses. Alors en biologie, il y a peut-être la singularité, enfin entre guillemets, singularité en biologie qui arrivera. Parce qu'on fera peut-être des êtres vivants artificiels avant de faire des ordinateurs pensants. Ça, c'est un autre problème, on n'est pas biologiste. Et puis on n'a plus le temps.
Et voilà. Donc merci. La table ronde est donc conclue. Merci aux participants et au public.